Popol, le podcast politique qui donne la parole aux femmes.
Every time I look down on this timeless town, whether blue or gray be her skies, whether loud be her cheers or whether soft be her tears, more and more do I realize.
Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce 16e épisode de Popol. Et pour ce 16e épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Cléa Chakraverty. Bonjour Cléa.
Bonjour Léa.
Ça
bonjour,
va
bonjour à toutes. Oui, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui.
Avec plaisir. Tu peux nous parler de toi un peu, s'il te plaît?
Oui, avec plaisir. Alors, je suis journaliste et chef de rubrique politique et société au sein du média The Conversation France, qui est un média qui s'attache à décrypter l'actualité par la voix des scientifiques et refléter aussi l'actualité de la recherche.
Super, merci beaucoup. Nous avons aussi avec nous Valérie Ayer. Bonjour Valérie.
Bonjour Léa, bonjour à toutes.
Comment vas-tu?
Très bien, merci.
Merci d'être là. Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît, Valérie?
Oui, je suis députée européenne, membre de la délégation Renaissance au Parlement européen et du groupe Renew. Et je m'occupe particulièrement au Parlement européen des questions budgétaires. J'ai participé aux négociations pour le budget 2021-2027, aux discussions sur le plan de relance également. Et par ailleurs, quand le budget me laisse du temps, je m'intéresse aux questions liées au numérique, notamment à la régulation des plateformes. Et puis un gros sujet aussi en lien, qui va me prendre un peu de temps, c'est les ressources propres, la taxation des géants du numérique, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, etc.
Ouais, c'est un super chantier, vaste chantier, bravo. Et enfin, nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Floriande Rideau. Bonjour Floriande.
Bonjour Léa, bonjour à toutes.
Comment vas-tu?
Très très bien, super.
À toi de nous parler de toi du coup.
Oui, bah, du coup, donc moi je suis ancienne assistante parlementaire au Parlement européen. J'étais attachée parlementaire de Michel Alliot-Marie notamment, et je m'occupais de la communication et de la presse. Et après, j'ai un petit peu bifurqué parce que j'ai rejoint une agence de concertation dans le sud de la France. Et aujourd'hui, j'ai monté avec mon associé Kevin Guérel ma propre structure de conseil en communication politique et publique, avec tout un volet évidemment citoyenneté et concertation.
Génial. Quand tu parles de concertation, tu entends quoi précisément?
Alors, la concertation, il faut savoir qu'il n'y a pas que de la concertation citoyenne, il y a aussi la concertation dite acteur, la concertation élue, on en entend beaucoup parler en ce moment. En fait, la concertation, c'est associer un public cible, quel qu'il soit, à la prise de décision. Donc on va effectivement aller chercher le citoyen, que ce soit dans son espace de vie à lui ou justement que lui vienne à nous. On va aller chercher les acteurs locaux qui sont parfois oubliés des prises de décision, donc on va aller les chercher. Alors après, on a des spécificités, on va chercher les acteurs locaux plutôt économiques, plutôt sociaux, plutôt associatifs, ce genre de choses. Et évidemment, on va aller chercher les élus, parce que les élus ne prennent quand même rarement leurs décisions seuls. Voilà. Donc, en général, on essaye de les concerter même ensemble, donc pour des projets, que ce soit des projets de territoire ou pour des projets de société.
Voilà. Super, merci beaucoup. C'est très intéressant, en effet. Alors, la concertation, tiens, c'est peut-être quelque chose dont on va parler, du coup, pendant ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de deux choses, de deux thèmes. On va parler d'abord des divisions au sein de la majorité, et ensuite, on parlera de la défiance politique en France. Donc, premier sujet, les divisions au sein de la majorité. Les polémiques qui ont récemment éclaté autour des menus végétariens dans les cantines ou encore de la menace de l'islamo-gauchisme dans les universités ont montré que les membres de la majorité n'étaient pas toujours d'accord entre eux. Ces divergences nous rappellent que le clivage gauche-droite n'est peut-être pas dépassé au sein de La République En Marche. À quelques mois de la présidentielle et des élections législatives, ces divisions viennent fragiliser un parti politique dont les fondations sont encore très récentes. Ces divergences sont-elles surmontables ou risquent-elles de faire voler en éclats cette formation politique qui est encore en pleine structuration? Et j'ai envie de commencer avec toi, Valérie. Je ne sais pas pourquoi. Si, tout simplement parce que toi, tu fais partie donc, de cette majorité. Et je voulais savoir un peu comment tu percevais ces divergences, cette espèce de cacophonie. Enfin, moi, j'étais quand même un peu hallucinée de voir que Jean-Baptiste Moreau tapait sur Barbara Pompili comme ça sur Twitter. Ça m'a un peu choquée, hein, pour être sincère. Et de voir ensuite que Hugues Ranson prenait sa défense. Enfin, c'était hallucinant, quoi. Je me disais, mais quand on est membre de la majorité et qu'on voit ça, comment on réagit en fait?
D'abord, je pense que le débat, c'est sain. C'est sain d'avoir des discussions, des échanges, et je crois aussi qu'il faut rappeler à tout le monde, à chacun, que la majorité, elle le reflet de la société. Et donc, c'est normal qu'il y ait des débats au sein de la majorité, qui par ailleurs est importante. C'est normal qu'il y ait des débats au sein de la majorité, de la même manière qu'il y a des débats au sein de la société française. Et puis, je crois aussi que ces débats, ils contribuent à permettre aux Français de se faire une idée sur tel ou tel sujet. Tu l'as rappelé, la majorité, elle est en construction. Le parti En Marche et puis les partis membres de la majorité, mais surtout le parti En Marche, il s'est construit autour d'un homme dans le cadre d'une campagne présidentielle avec deux, voire trois maîtres mots. L'émancipation, le progressisme, qui est le troisième qui compte pour moi, et je crois que c'est dans l'ADN d'En Marche et dans l'ADN du projet du président, c'est l'Europe. Et donc, il y avait ces éléments-là, ces trois maîtres mots qu'il faut mettre en musique maintenant, qu'il faut décliner. Et en fait, la doctrine du parti En Marche, elle est à construire, en fait. Et c'est le rôle du parti majoritaire aussi de faire des propositions. Je pense notamment aux jeunes avec Macron qui ont fait des propositions sur la jeunesse qui ont été retenues par le gouvernement. Donc, là, tout ce travail de proposition, cette idée de poser les jalons idéologiques du mouvement qui est en cours de construction, ça se fait dans le cadre de groupes de travail, pilotés par des ministres, pilotés par des experts ou par des marcheurs. Et ça, c'est un travail qui est en cours au sein du mouvement En Marche et au sein de la majorité présidentielle. Et peut-être l'expérience qui est la mienne en tant que députée européenne au sein d'une délégation de 23 élus, membres de la majorité présidentielle. On a du débat. On a des discussions, on n'est pas toujours d'accord sur les lignes qu'on défend, mais je crois que le temps du débat, il est nécessaire. Il y a le temps du débat et il y a le temps de la décision politique et de la ligne politique. Ce qui importe, c'est qu'il y a du débat, qu'il y ait du compromis. C'est ce qu'on fait au quotidien au Parlement européen. Ça fonctionne bien, mais on est 23. Donc, à la fois, c'est beaucoup, c'est une grosse délégation à l'échelle du Parlement européen, mais sur un groupe ou une majorité de plusieurs centaines d'élus, c'est forcément plus difficile à bâtir. Et puis, une fois qu'on a dit ça, je dois quand même reconnaître que sur la forme, autant le débat, je le trouve sain, autant sur la forme, je préférerais que le débat il ait lieu dans un cadre plus serein, plus posé, plus feutré. Et voilà, si je pense que le débat est important et intéressant, sur la forme, je regrette qu'il se fasse dans ces conditions-là.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interpellée, mais... J'étais un peu contente, à vrai dire, parce que je peine à dire de partout, et à qui veut l'entendre, que pour moi, le clivage gauche-droite n'est pas dépassé, il n'est pas encore mort, et qu'on cherche effectivement beaucoup de personnes considèrent qu'on est en train de progressivement glisser vers un clivage progressiste et réactionnaire, en quelque sorte. C'est marrant parce que j'ai eu le sentiment, et plus particulièrement sur la question des menus végétariens, qu'il y avait une conception de l'écologie qui était très gauche, celle de Barbara Pompili, et très droite, celle de Julien Normandie, qui se veut plus proche du terroir, etc. Est-ce que toi, Cléa, t'as vu ça un peu de cette façon aussi? Et qu'est-ce que tu penses, en fait, de ce clivage gauche-droite au sein de la République En Marche? Existe-t-il? Parce que certains disent qu'il n'existe même plus au sein de la société française, je trouve qu'on va un peu loin, mais... toi qui as quand même un œil très aguerri sur ce genre de questions, qu'est-ce que tu en penses?
Merci Léa pour la question. En fait, j'aimerais y répondre si possible peut-être en deux temps, parce que je pense qu'il y a plusieurs choses dans cette question. C'est-à-dire que je n'irai peut-être pas jusqu'à commenter la situation du parti en lui-même, parce que je pense que comme l'a expliqué en fait Valérie, effectivement c'est un parti qui est aussi en construction. On a déjà vu qu'il y a eu des départs hein, au sein du parti, notamment l'aile, on va dire, un peu plus à gauche, si on se rappelle quand même le départ d'Aurélien Taché ou Paul Afortesa, par exemple. Il y a aussi des personnes qui sont beaucoup plus à droite et qui vont même chercher un électorat très à droite. Mais par ailleurs, si on revient un petit peu sur cette question idéologique, en fait, ou en tout cas des sujets qui fâchent, pour le dire de façon un peu plus franche, j'aimerais revenir sur un point qu'a évoqué Valérie et qui est crucial à mon sens, c'est effectivement la question du débat. Donc oui, le débat est important et oui, il faut ne pas être d'accord, en fait, c'est ce qui va permettre d'être constructif. Néanmoins, pour qu'il y ait débat, il me semble qu'il faut qu'on comprenne de quoi on parle. Et ce qui était assez frappant avec, alors d'une certaine façon, avec les cantines végétariennes, non végétariennes, la politisation finalement de l'objet cantine scolaire, on le retrouve dans le débat islamo-gauchiste. C'est-à-dire que de quoi parle-t-on en fait ? De qui parle-t-on ? De quoi parle-t-on ? Et un des points qui me semble vraiment intéressant et qui a été soulevé d'ailleurs par de nombreux chercheurs, que ce soit les chercheurs, les universitaires qui ont été la cible de certaines attaques ou les autres, ceux qui les ont entre guillemets attaqués, par plutôt voie de presse hein, finalement que dans le véritable débat scientifique, que dans les revues scientifiques où se fait la recherche, où se fait aussi le débat, c'est qu'on a bien pointé qu'il y a un manque de compréhension des termes. C'est-à-dire de quoi parle-t-on quand on parle d'islamo-gauchiste ? Est-ce qu'on parle de militantisme d'une certaine gauche qui serait religieuse ? Est-ce qu'on parle de l'antrisme, enfin, d'un certain islamisme politique qui ferait émergence dans la gauche ? Est-ce qu'on parle d'une idéologie ? Est-ce qu'on parle d'un projet politique ? Est-ce qu'on parle d'activités militantes des intellectuels ? Est-ce qu'on parle du mix, on va dire, de la rencontre de l'activité intellectuelle au sein du monde politique ? On sait que le Parti En Marche, par exemple, en tout cas son fondateur, est quelqu'un qui est extrêmement soucieux du débat intellectuel. On l'a bien vu avec le grand débat. Donc, c'est quelqu'un qui a cherché à rassembler un petit peu autour de lui aussi des voix intellectuelles parfois dissonantes. Et je pense qu'on peut s'en réjouir, puisque c'est aussi ça qui fait la force d'un projet. Mais les termes du débat doivent être posés. Ce qui semble important, c'est de vraiment définir les termes du débat. Et dans le cas, alors je vais prendre l'exemple du terme, l'expression islamo-gauchisme. Il faut savoir que c'est une expression qui a été, on va dire, mise en valeur, définie d'une certaine façon par Pierre-André Taguieff, donc, qui est un intellectuel français, qui s'est situé dans une certaine mouvance intellectuelle plutôt à gauche pendant un certain nombre d'années, qui a beaucoup travaillé aussi sur les questions de la nouvelle, ce qu'il a appelé aussi la nouvelle judéophobie. Donc, c'est un terme qui remonte à 2002. Et lui-même a récemment expliqué dans une interview au JDD que son terme, et le terme qui a lancé le débat, a été dévoyé, a été sorti du contexte par le politique. Et d'une certaine façon, je pense que c'est assez révélateur de certaines tensions qui agitent, et comme l'a encore une fois très bien dit Valérie tout à l'heure, à la fois la majorité, mais aussi finalement la société. On ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas vraiment de qui on parle. Est-ce qu'on parle d'un... Quand un objet est indéfinissable, il entraîne une certaine confusion. Donc, dans le débat public, dans le débat intellectuel, même si ce débat intellectuel essaye, par exemple, la parole scientifique, de se faire entendre dans des revues, alors les revues à comité de lecture, par exemple, qui sont très difficiles d'accès pour grand public, non pas parce que les gens n'ont pas la capacité de les lire, hein, bien sûr, mais simplement parce qu'il faut savoir aussi où les chercher. Et par contre, on voit avec ces deux débats qui sont cette question d'islamo-gauchisme comme celle de la cantine, qu'on les retrouve en fait plus facilement dans les médias, à travers des tribunes, à travers des signatures de personnes qui ont des positions politiques. Donc finalement, qu'est-ce qu'on reproche vraiment à des gens d'avoir des positions politiques sur des positions intellectuelles, mais en quoi finalement cela pose-t-il problème ? Et par ailleurs, il faut aussi savoir qu'il y a un contexte très fort qui joue. Et clairement, la majorité, il me semble, depuis quelques mois, si ce n'est un peu plus, s'inscrit quand même, il me semble, hein, encore une fois, dans une certaine droitisation finalement de certains de ses propos sur certaines thématiques. On l'a vu avec la première sortie du ministre de l'Éducation au mois d'octobre déjà sur cette thématique-là. Il ne faut pas quand même oublier que ce débat sur l'islamo-gauchisme vient de façon très opportune encadrer aussi la proposition de loi qu'on surnomme la loi séparatisme, il me semble, où on va quand même aller demander, ou en tout cas faire une sorte de veille ou de contrôle du monde associatif, du monde militant, donc qui peut tout à fait s'entendre, hein, bien entendu, d'une emprise, hein, supposée ou réelle d'un islam politique radical. On voit aussi que ce débat arrive à point nommé au moment où on a Gérald Darmanin qui s'oppose à Marine Le Pen et qui lui reproche presque quand même de ne pas être assez sévère. C'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit. Et puis, enfin, on a quand même ce micro-incident qui n'en est pas vraiment un, qui est la question de la mise en cause du maire de Trappes, Ali Rabé. Donc, il y a quand même une sorte de convergence, il semble, de différents éléments qui questionnent finalement l'usage, en tout cas, de ce type de débat à partir du moment où, d'une part, on n'a pas vraiment les définitions qui permettraient aux gens, justement, de vraiment s'emparer du débat, et d'autre part, des propositions de loi, un contexte qui semble faire qui quand même semble aller sur un terrain du jeu de la politique, de l'identité en politique en tout cas. Et c'est quelque chose qui me semble être assez faux, sur lequel il faudrait être un peu vigilant.
C'est assez intéressant. J'aime beaucoup le fait que tu insistes sur l'importance de savoir ce dont on parle. C'est vrai, c'est bien de commencer par là. Florian, j'imagine que toi aussi, tu as suivi un peu ces sorties, appelons-les comme ça, notamment sur les réseaux sociaux et dans les médias. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait fragiliser davantage le parti présidentiel ou pas?
Le fragiliser, non, je ne pense pas réellement, parce qu'on est aussi sur une volonté de rassembler malgré tout, et on le sait aussi que plus on va cliver, plus on va rassembler, et plus, enfin, créer une sorte de fidélité autour de son discours. Pour moi, la question de l'islamo-gauchisme ou du menu végétarien, très sincèrement, ça reste des polémiques beaucoup plus que des sujets d'intérêt, en fait. C'est-à-dire que la question, c'est exactement ce que vient de dire Cléa, c'est déjà qu'est-ce qu'on met derrière le mot islamo-gauchisme. Est-ce qu'on parle vraiment d'une idéologie? Le problème, c'est qu'on est quand même d'accord que ces mots-là sont très très vite angoissants. C'est des mots qui font peur. De toute façon, dès qu'on parle d'idéologie, même le mot idéologie est quelque chose qui peut faire peur parce que c'est des mots dévoyés. Et puis parce qu'aujourd'hui, on essaye, malheureusement, je dirais, d'aller sur un terrain qui n'est pas forcément le nôtre. Je m'explique. Tout à l'heure, tu parlais de est-ce qu'il y a toujours un clivage gauche-droite ? Je pense sincèrement que oui. Malgré tout, je pense quand même que les gens qui étaient très très à gauche il y a 40 ans sont un petit peu moins à gauche aujourd'hui, et ceux qui étaient moyennement à droite sont aujourd'hui franchement à droite. Donc, pour moi, c'est un problème de vocabulaire. On est en train de changer les mots. Alors moi, je l'étudie, je le lis, si tu veux, un petit peu plus par le prisme du médiatique. Effectivement, je ne suis pas chercheuse, donc savoir si islamo-gauchisme a un sens ou pas, très sincèrement, n'ayant pas moi-même la définition exacte du mot, je ne l'étudie pas en ce sens. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on est un peu en train de passer à cette politique du spectacle, mais qui est dénoncée depuis très très longtemps. Hein. Ça n'a absolument, pour moi en tout cas, absolument rien de nouveau. Avec de la punchline, la petite phrase, vous savez, comme on le voit dans ces bandeaux d'infos continues, c'est la phrase qui va passer, c'est la phrase qui va accrocher, et c'est la phrase qu'on va retenir et qu'on va associer à une personne. Personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Et du coup, je dirais que, entre guillemets, j'apprécie d'autant plus la prise de hauteur de Jean Castex, pardon, qui a décidé de ne pas intervenir sur ces sujets-là. Bon, il est par ailleurs un petit peu préoccupé en ce moment par d'autres sujets qui, pour le coup, ont un véritable intérêt pour la nation dans son ensemble. Mais je trouve que c'est assez intéressant, et du coup, de voir par contre, des ministres qui se tapent un petit peu dessus, je trouve ça dommage. Après, non, je pense pas que ça fragilisera la majorité.
Ouais, Valérie, toi, tu penses que c'est quelque chose qui est facilement surmontable, ou c'est vraiment juste comment dire ? Est-ce que, par exemple, est-ce que quelqu'un du gouvernement pourrait partir ? Claquer la porte.
Je pense que c'est surmontable. Alors là on fait le focus sur des polémiques du moment qui sont réelles dans le débat public. Je me mets au défi de me trouver un gouvernement sous les majorités précédentes sous lesquelles il n'y a pas eu de polémique. À la fois sous Hollande, sous Sarko, sous Chirac. Il y a toujours eu de polémiques, et comme le disait Florian, en fait, il y a des constantes. Ça fait partie des éléments des constantes. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est de dépasser ces polémiques. Il y a du débat, il y a des positionnements. Ok, on les prend en compte. Ils ont plus ou moins d'écho dans les médias et au sein de la société. Mais il faut les dépasser. Moi, je suis confiante dans le fait que la majorité présidentielle, elle fasse corps. Si on donne l'exemple du débat sur l'islamo-gauchisme, je pense que là encore, comme disait Florian, en fait, je vais aller sur le même thème. Il n'y a rien de neuf dans le fait de dire on fait une étude. Il y a des tas d'études qui sont faites sur des tas de sujets, sur un état des lieux de la recherche universitaire. Donc le fait que même, j'ai tendance à penser que le fait de dire on va faire une étude, ça permettra aussi sans doute d'objectiver la situation, de voir s'il y a du fantasme ou pas là-dedans, de voir si c'est le fait d'abord de dessiner précisément les contours de ce qu'est l'islamo-gauchisme, de ce que ça recouvre, etc. Et puis de voir si, en fait, c'est le fait d'individualité ou s'il y a un élément systémique là-dedans. Donc, sur cette question-là, le fait de mener une étude, je trouve ça sans doute intéressant, et c'est le boulot des universitaires. Néanmoins, je pense que la forme peut être regrettable parce que le terme islamo-gauchisme, on l'a dit, est difficilement perceptible pour le grand public, ne recouvre pas une réalité scientifique précise, et parce que le terme d'enquête sans doute a une connotation négative et renvoie à un message de punition ou cette idée-là, et je pense que ce n'était pas approprié dans le moment. Voilà, mis à part, donc, sur le fond, je pense que c'est intéressant. Sur la forme, peut-être des maladresses. La réalité aussi, c'est que quand on parle des polémiques, il y a aussi des sujets dont on ne parle pas. Et je pense qu'il faut aussi traiter, ne pas oublier qu'il y a cette polémique-là, donc puisque les médias en parlent, puisque ça fait écho dans la société, il y a une part de ça répond sans doute à une réalité, c'est vrai, mais il y a aussi des réalités du quotidien qu'il faut traiter et que le gouvernement traite à bras le corps, mais il y a le racisme, l'islamophobie, etc., qui sont des réalités dont on ne parle pas quand on parle de la polémique sur les islamo-gauchistes. Donc il y a tous ces éléments-là, et pour revenir à ta question de départ, oui, moi je suis confiante pour l'avenir et pour la solidité et le fait que la majorité présidentielle continue de faire corps.
Merci Valérie. Cléa, tu voulais réagir ?
Oui, tout à fait. Je voulais revenir un tout petit peu à ce qu'a dit aussi Valérie, puis sur le débat de façon un peu plus large. Je pense justement, Valérie, tu vois, c'est intéressant parce que quand tu dis il y a des réalités sur lesquelles dont on ne traite pas forcément les médias, et tu as raison, les médias sont une caisse de résonance des polémiques, et on peut aussi le critiquer et apprendre à faire différemment. C'est aussi à notre rôle à nous en tant que journaliste. Mais tu dis, voilà, tu parles de racisme, tu parles de discrimination, tu parles d'islamophobie, par exemple, tu as utilisé ce terme. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est justement ce type d'études et de recherches qui sont aujourd'hui remises en question par certains intellectuels, certains universitaires qui vont qualifier, par exemple, la recherche sur l'islamophobie. Je pense notamment à un débat récent entre Nathalie Henrich et Abdelali Hadjet, ce qui était sur une émission France Culture, si je ne dis pas de bêtises, qui va disqualifier en fait ce type de recherche en disant arrêtez d'utiliser certains termes, ils n'ont pas de validité scientifique, etc. etc. Et ça vient finalement nourrir un certain débat, une certaine défiance sur certains courants de pensée, certaines envies de faire de la recherche qui vont mettre en avant justement des faits de discrimination, tout simplement en disant ce n'est pas suffisamment valide, ce n'est pas suffisamment abouti, qui peuvent aussi peut-être nourrir un petit peu de confusion dans le débat. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui me semble assez intéressant, c'est simplement le fait que ces débats, certes, ce sont des polémiques, mais ils sont effectivement anciens, et ça a été, tu l'as tout à fait bien rappelé, Valérie, mais je me rappelle, c'était Najat Vallaud-Belkacem qui a pris en plein visage la fameuse théorie du genre quand elle était ministre de l'Éducation, il me semble, avec ABCD pour l'égalité, le truc est complètement parti en sucette, si je peux me permettre. Et on revient sur les mêmes questionnements, c'est-à-dire finalement, c'est une forme d'imposer finalement à certains courants politiques de se positionner. Et on le voit, on a publié récemment un article dans The Conversation sur la question de la gauche radicale et de la laïcité. Comment se positionne une certaine gauche en France sur des thématiques qui ont surgi vraiment de façon dans le débat public, et puis physiquement, depuis 2001 et après ensuite en France avec les attentats de 2015, comment une gauche répond à ces questions que se posent les gens. Et aujourd'hui, on le voit bien, la gauche est divisée autour de ces questions-là. Donc, est-ce que cette division aussi au sein d'une gauche française assez large, radicale ou non, élevée ou pas, est-ce que finalement ces questions vont permettre de faire émerger un autre projet politique? Est-ce que ce projet politique, c'est celui de l'ALREM qui a lui-même dans son parti des personnes qui ont été affiliées dans ces différentes formes de mouvements de gauche? Ça, je pense que c'est une vraie question. Et à mon sens, tant que les partis de gauche n'ont pas résolu, pas affiché de façon assez claire leur positionnement politique, ça va, hein, et peut-être que j'anticipe un peu la question suivante de Léa, mais je pense que ça va créer encore plus de défiance et de, en tout cas de remise en question des parties traditionnelles.
Ouais. Florian, tu voulais réagir et je te laisse peut-être conclure sur ce thème si ça ne vous dérange pas. Et on passera justement à la défiance. Merci pour la transition, Claire.
Il y a juste une petite chose que je voulais dire, notamment sur la question des jeux d'acteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier qu'effectivement, quand on entend un de Normandie qui intervient, il est quand même ministre de l'Agriculture. Donc, quand on dit plus de plats végétariens, ou en tout cas, on impose un plat végétarien, il le sait très bien qu'il y a les lobbies derrière et que lui, son jeu à lui, c'est de protéger... Alors, protéger pas son portefeuille en tant que pouvoir, mais de protéger tous les lobbies qu'il y a derrière et de protéger tous les acteurs qu'il y a derrière. Donc le problème, c'est que au fond, ce qu'il en pense lui réellement, je vous dirais, on s'en moque un tout petit peu. Ce qu'on attend de lui, par contre, c'est qu'il soit en capacité de défendre sa propre branche et qu'il soit capable de défendre les gens qui comptent sur lui, en fait. Et le problème, il est exactement là. La différence, quand tu disais, Valérie, tout à l'heure, en disant il n'y a pas de gouvernement ou il n'y a pas eu de polémique. C'est clair. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... comment le dire franchement, mais en fait... Il y a aussi le problème qu'on attend quelqu'un qui signe la fin de la récré, en fait, qui siffle la fin de la récré. C'est-à-dire que sous un Jacques Chirac ou un Nicolas Sarkozy, ça arrivait, ça a duré 24 heures, 48 heures. Et au bout d'un moment, il y avait quelqu'un qui disait « Eh, maintenant, les gars, on arrête tout, vous êtes gentils, on a un cap, on le suit. Il est bon, il n'est pas bon. C'est pas mon problème, en fait. Le cap, je vous le donne et vous le suivez. » Le problème, c'est que ça fait quand même deux polémiques qui durent, en fait. Et le problème, il est là, c'est que depuis le début, et c'était déjà le cas sous François Hollande, et c'est un peu aussi le cas sous Emmanuel Macron, c'est que c'est des polémiques qui durent, et où il y a de plus en plus d'acteurs dans la polémique, où chacun y va de son idée, chacun y va de... Au bout d'un moment, le problème, c'est que je pense, en tout cas, que les Français ont besoin de pouvoir faire confiance, et que s'il n'y a personne pour... redonner ce cap-là et rassembler tout le monde, ça devient compliqué. Quand on s'attaque à des mots comme l'islamo-gauchisme, on s'attaque à un mot, en fait. Et quand on s'attaque à des mots, on s'attaque à des repères. Et le problème, c'est qu'on sait très bien aujourd'hui que les mots sont les repères de notre société et que si on essaye de créer un nouveau langage ou si on essaye de créer de la confusion, comme tu le disais, Cléa, tout à l'heure, en n'utilisant pas forcément les bons mots, en n'utilisant pas forcément les bonnes idées derrière, et ben au final, on se retrouve avec une population qui ne sait plus tout à fait où elle va, qui ne sait plus à qui faire confiance. Et au-delà même des idées ou des tentatives électoralistes, c'est inquiétant. En tout cas, moi, je trouve ça inquiétant. C'est-à-dire que si on ne peut plus faire confiance à un homme politique, quel qu'il soit, pour utiliser le bon mot au bon moment dans le bon contexte, ça veut dire que derrière, l'idée qu'il va soumettre sera forcément dévoyée. Et donc sans vouloir te retendre la perche Léa, mais effectivement je pense que du coup ça peut effectivement engendrer ce problème de défiance qu'on entend régulièrement.
De la défiance, on va en parler parce que vous voulez en parler, hein, vraisemblablement. Parlons-en. Alors, le Centre de recherche politique de Sciences Po, le CVPOF, a publié cette semaine le baromètre de la confiance politique, précisément. Cette étude, qui comprend plus de 130 pages, nous enseigne notamment que la France souffre d'une défiance politique qui est plus importante que celle de ses voisins européens. Et ce sentiment ne semble pas tout à fait se dissoudre avec la crise que nous traversons actuellement. Quite the contrary, comme on dit. En effet, l'étude relève que seulement 37% des personnes interrogées jugent que nos dirigeants ont bien géré la crise sanitaire. Cette défiance politique n'est pas propre à la France, mais la verticalité du pouvoir favorisée par le fonctionnement de nos institutions et la place centrale accordée à l'exécutif par la Constitution de la Ve République semblent creuser le fossé entre les citoyens et leurs dirigeants. Cette situation est-elle inquiétante? Ça, on peut se poser la question. Que pouvons-nous faire, surtout, pour lutter contre ce phénomène? Qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais d'abord donner la parole à Cléa, qui voulait parler de défiance tout à l'heure. Vas-y.
Oui, tout à fait. Merci. Merci, Léa. Et en fait, je pense que ça rejoint un petit peu, ça continue plutôt la discussion qu'on a amorcée. Si vous me le permettez, moi, j'aimerais citer un auteur de mon média, The Conversation, qui s'appelle Vincent Tournier, qui est politologue et qui a également travaillé sur cette question-là. Il cite les chiffres du CVPOF que tu viens de donner, Léa. Il apporte un regard un tout petit peu décalé qui me semble assez intéressant. Il parle, lui, aussi, non seulement de défiance vers les partis, mais aussi de crise de l'adhésion. Et effectivement, ils donnent quelques chiffres, donc je ne vais pas forcément vous les redire, mais un chiffre qui me semble quand même très fort, c'est qu'il dit en France, le taux d'adhésion aux partis politiques est particulièrement bas, 2% en 2017, et il a peu évolué depuis 1981. C'est quand même énorme, c'est-à-dire concrètement, il y a de moins en moins de, dans son étude, c'est ce qu'il montre par rapport aux voisins européens, de moins en moins de Français qui adhèrent à des partis politiques ou qui le font de façon peut-être désordonnée, éparpillée. En tout cas, c'est une constante. C'est que les Français ne s'engagent plus en politique, en tout cas pas de la façon traditionnelle. Et il corrèle ce désengagement quelque part à un désengagement aussi de la solidarité, donc avec moins d'adhésion dans le milieu associatif, ce qui peut étonner, puisque c'est vrai que notamment avec la crise sanitaire, on a vu quand même énormément de jeunes aussi, pas que des jeunes d'ailleurs, mais beaucoup de personnes s'engager dans différentes associations, dans différents mouvements. Alors, est-ce que la crise sanitaire va changer la donne? Est-ce qu'on va voir affluer plus de gens dans le monde associatif? Mais est-ce que cela peut se traduire aussi dans le monde politique? Et quand on voit que les étudiants aujourd'hui, les lycéens sont dans un désarroi total en raison de la crise, et c'était déjà assez compliqué avant. On sait aussi que le politique recrute énormément, c'est un pas très joli, mais au sein des mouvements étudiants, par exemple, on pense à l'UNEF, on pense à même des partis de droite, etc. Alors, s'il n'y a plus de syndicats étudiants, si les mouvements étudiants ne se mobilisent pas de la même façon, comment les partis vont-ils se renouveler? C'est une question, j'aimerais bien d'ailleurs que Valérie et peut-être Florian réagissent sur cette question, parce que moi ça me... Vraiment, ça m'interpelle. Je me dis d'où viennent les troupes, en fait, au final.
Ouais, c'est assez intéressant, effectivement. Et c'est marrant, mais je ne sais pas si l'UNEF a toujours ce rôle que tu décrivais. Moi, je me souviens quand j'ai jamais adhéré à l'UNEF, mais j'ai toujours été assez proche du Parti Socialiste quand j'étais étudiante. J'étais en quartier très jeune. Et c'est vrai que vraiment c'était une pépinière, quoi, une véritable pépinière. Florian, tu veux réagir un peu à tout ça? Et puis bon, revenons sur la défiance, laissons tomber l'UNEF, mais qu'est-ce que tu penses, toi, de ce climat? Est-ce que c'est inquiétant?
Je pense pas que ce soit inquiétant, parce qu'en fait c'est je pense que Valérie sera peut-être contente de ce que je vais dire, mais c'est pareil, c'est pas nouveau, quoi. Je suis désolée, mais quand je travaillais un peu sur ces interviews, je disais c'est un marronnier, et en fait non, c'est plus précisément ce qu'on appelle un marronnier existentiel, c'est-à-dire en qui j'ai confiance, vers qui je me tourne, est-ce que j'ai confiance en moi, est-ce que j'ai confiance en l'avenir. On le voit, il y a quand même une hausse de confiance en la famille dans ce sondage. On est quand même à 94%. Le premier élu ou le premier pouvoir en lequel on a confiance, c'est le maire. Donc en fait on est juste en train, un petit peu plus, bien au-delà de l'idée de la défiance, on est juste en train de resserrer un petit peu plus à chaque fois l'étau autour de soi. Aujourd'hui, on le voit. Après, franchement, la question de la défiance en politique en pleine crise du Covid, bon, je pense que malgré tout, les chiffres ne sont pas si surprenants, je trouve. Quand on regarde les indicateurs qui ont le plus monté, le plus baissé, je trouve que sincèrement, finalement, le politique s'en sort pas si mal, compte tenu de la crise, actuelle. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement que ce qui crée aussi cette défiance envers le politique, c'est le problème que tout le monde a un avis. On l'a vu pendant le Covid, tout le monde est médecin, on le voit pendant la Coupe du Monde, tout le monde est sélectionneur. Bon, ok, très bien, super, mais concrètement, concrètement, comment peux-tu parler du Covid alors qu'il y a 2 mois, tu ne savais pas ce que voulait dire Covid et pourquoi il s'appelle 19 et pas parce qu'il est sorti en 2019. Bon, très bien, le problème, il est exact. Voilà. Le problème, il est exactement là. Le problème, c'est qu'on a construit en fait une société où tout le monde a son avis, et c'est important d'avoir un avis. Malgré tout, tous les avis, je suis désolée, hein, mais tous les avis ne se valent pas. Il faut contextualiser les avis. Donc, tous les avis ne se valent pas. Le problème, c'est que qui plus est avec les réseaux sociaux, tout le monde parle de tout, tout le monde a un avis sur tout, et tout le monde veut imposer son avis. Pourquoi? Parce qu'on a construit cette société un petit peu, si je puis me permettre, de la flatterie, c'est-à-dire que ce soit les réseaux sociaux ou dans le monde, tout le monde, c'est super. Franchement, ce que tu fais, c'est super. Ce que tu dis, vraiment, c'est génial. Non, ça n'est pas vrai. Je suis désolée, mais ça n'est pas vrai. Voilà. Donc, moi, j'ai une petite qui a 2 ans. Et ben, je ne lui dis pas toujours que ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire. Ben, je pense qu'à 40 ans, on devrait être capable d'entendre que ce qu'on dit ou ce qu'on fait, ce n'est pas toujours extraordinaire. Donc, du coup, tout ça, en fait, entraîne, je pense, une hausse de la confiance en soi, quelque part. C'est-à-dire que, effectivement, tout ce que je fais, c'est génial. Mais donc, du coup, par rapport à ce que dit le président de la République, moi aussi, si j'ai une audience, comme certains influenceurs, à 4 millions d'abonnés, ça a le même sens que quand le président en a 4 millions. Or, on est bien d'accord qu'un influenceur n'aura pas le même avis qu'un président de la République sur la crise du Covid. Elle aura un autre avis sur autre chose, qui vaudra certainement celui du président de la République, mais il faut, à mon sens, il faut contextualiser les choses. Et je reviens à ce que je disais un petit peu sur le premier débat. Il faut utiliser les bons mots. Il faut avoir un langage et un vocable approprié. Et cette question de la défiance, je pense qu'au-delà de la défiance, c'est un problème de confiance. Et je pense que même juste de dire on a un problème de confiance et pas un problème de défiance, je trouve que rien que de dire ça, eh ben on ne dit pas la même chose. Donc, peut-être qu'on peut tourner un petit peu aussi quand sortent ces sondages-là. On peut peut-être tourner la question un petit peu différemment. Et pour répondre rapidement, je suis désolée à Cléa, comment les partis se réinventent ? Ils se réinventent grâce à la société civile. Je crois foncièrement à la société civile parce que je crois foncièrement à l'expertise d'usage. Aujourd'hui, je pense que le politique qui en a fait son métier, il est entre guillemets un petit peu has-been, dans le sens où ce qu'on attend de lui, c'est sa connaissance du monde, sa connaissance de la société, c'est sa connaissance de ce qu'il vit au quotidien, en fait. Parce qu'à un moment, il faut être capable de parler autant à la ménagère de moins de 50 ans qui travaille ou qui ne travaille pas, c'est son choix, elle fait comme elle veut, qu'à un jeune ou un moins jeune de 25 ans, qu'à un retraité. Et ça, on le fait comment ? Eh ben, on le fait en connaissant les gens qui vivent autour de nous, en étant en capacité de parler avec ces gens-là, donc ça veut dire d'adapter son discours, et puis de savoir ce qu'ils vivent. Et ça, on le sait comment ? On le sait par la concertation. Je suis désolée de revenir à ça, mais on le sait par la concertation et on le sait par son propre vécu et par sa propre connaissance.
Merci Florian, c'est effectivement assez intéressant ce que tu dis, c'est pas mal, j'aime beaucoup. Valérie, toi qui es au sein du Parlement européen, comment tu vois, comment tu perçois cette défiance aussi en France ? Et est-ce que tes collègues européens partagent le même avis par rapport à leur propre pouvoir politique local ?
Si tu permets un mot d'abord sur l'engagement politique. Je crois que c'était la promesse et ce qui a plu aussi, l'un des éléments qui ont fait que les Français ont adhéré à la démarche d'Emmanuel Macron, c'était l'idée de dire que la société civile doit s'engager en politique, de faire émerger de nouveaux visages, etc. Et ça a été une promesse que le président de la République a tenue, candidat à l'époque, aujourd'hui président de la République a tenue, et que le mouvement l'AREM doit entretenir. Et c'est pas évident, c'est vrai, hein, il faut le reconnaître. Et je crois, de toute manière, bon, ça a été dit, les Français ne veulent plus s'engager dans des partis. Par contre, ils veulent s'engager dans des causes. Je crois qu'il y a une vraie volonté d'engagement. Alors, il y a peut-être eu un creux il y a quelques années, mais on voit là, on a de nombreux exemples.
Absolument. Surtout chez les jeunes.
Exactement, qui attestent qu'il y a une vraie volonté de s'engager, mais de s'engager sur des causes, sur des thématiques, sur le climat par exemple. Ça, c'est un exemple. Et je crois que c'est aussi le rôle des partis politiques et des mouvements politiques que de répondre à cette demande d'engagement avec une nouvelle offre qui est encore à construire. Sur le regard européen de la défiance ou de la confiance dans l'action publique, je crois que c'est un phénomène généralisé. On a vu, par exemple, si on doit aller, alors on parle de l'Europe, mais si on doit aller outre-Atlantique, on voit à quel point la société américaine est fracturée, avec la moitié de la population qui croit dans Biden et l'autre qui a priori ne fait pas confiance, a préféré voter pour Trump. Donc il y a ces éléments-là. Mes collègues, quand on parle dans les couloirs du Parlement européen, ils sont aussi confrontés à cette question de la défiance. Alors peut-être qu'en France c'est plus fort pour des raisons culturelles, mais cette réalité-là, elle est quand même très forte, et elle est marquée dans tous les États. Je fais le lien parfois aussi avec l'engagement syndical. En France, on n'a pas de culture syndicale, alors que dans certains pays, notamment en Europe du Nord, on a cette culture syndicale et le rapport, je crois, au syndicalisme et à la politique, à mon avis, est lié et est très fort. Dans les chiffres du CEDIPOF, je vois quand même qu'il y a un regain d'intérêt et de confiance pour l'Europe. Et moi, je veux y voir quand même un élément très positif par rapport à mon action en tant que députée européenne et par rapport à l'action de l'Europe. Je crois que les Français ont compris que l'Europe joue un rôle particulièrement dans la crise, que sans l'Europe, on n'aurait pas les vaccins, que sans l'Europe, on n'aurait pas le fameux plan de relance, etc. Donc ça, c'est un élément qui est personnel, et puis je pense que c'est le cas pour ma délégation et puis pour tous les députés européens qui sont pro-européens, parce qu'il y a des députés européens qui ne sont pas pro-européens. Je crois que c'est un élément...
Il y en a plus que des pros, d'ailleurs.
Oui. Et c'est un élément d'encouragement et puis là encore, je crois que pour construire de la confiance, il faut de la connaissance. Et c'est le rôle des élus, tu l'as dit Florian, mais aussi des acteurs politiques, des podcasteurs, des influenceurs, nous tous on joue un rôle politique. Et le fait de créer du lien le maximum avec les citoyens, c'est ce qui fera qu'on va pouvoir recréer de la confiance. Je crois honnêtement que le gouvernement fait beaucoup d'efforts de transparence. Et la transparence, ça contribue à la confiance. Des efforts de transparence sur la crise avec des conférences de presse hebdo diffusées en direct, le baromètre de l'action publique mis en place par Amélie de Montchalin, qui est un élément de transparence et d'objectivation de l'ensemble de l'action publique, qu'elle soit locale ou nationale. Les initiatives du porte-parole du gouvernement, qui sont inédites pour s'adresser à la jeunesse. Alors tout ça, c'est des petits éléments mis bout à bout qui font que, j'espère, qu'ils vont permettre de reconstruire, de retisser le fil de la confiance. Mais à la fin des fins, je crois que c'est chacun, on a notre rôle, notre responsabilité d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens, en ce qui me concerne, avec ma casquette de députée européenne, pour voir quelles sont les problématiques sur le terrain, pour dire, ben voilà, l'Europe, elle vous aide. Elle apporte tant, elle peut vous aider sur tel financement et de comprendre aussi leurs problématiques, ce qui pose problème. Et ça fait partie du rôle d'élu sans contexte.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis et je suis assez d'accord avec toi. Pourtant, Dieu sait que quand il s'agit de taper sur La République en Marche, je ne suis pas la dernière. Mais bon, ça, c'est no offense. Hein, Non, je déconne. Mais il est vrai que ce gouvernement fait énormément d'efforts pour essayer de capter certains publics qui semblent un peu éloignés de la question politique. Ça, c'est vrai qu'il y a c'est quelque chose qu'on voyait peut-être moins de mémoire sous les précédents gouvernements. Et c'est à saluer, en effet. Je trouve ça assez intéressant. Les initiatives, par exemple, de Gabriel Attal, qui était quand même, et il faut bien le dire, déjà dans l'ancien gouvernement. On oublie que Gabriel Attal était assistant, enfin, s'occupait des questions parlementaires au cabinet de Marisol Touraine. Tu vois, ça, c'est vrai que c'est des initiatives qui sont quand même intéressantes. Je dis pas que ça fonctionne, hein. C'est apparemment sa sortie sur Twitch était un peu un flop, mais il y a quand même cette volonté, et ça, c'est à saluer, c'est certain. Ouais. Cléa, tu veux réagir à tout ce qu'on vient de dire?
Oui, j'ai quelque chose qui m'interpelle un petit peu quand même, c'est ce qu'a dit Valérie, et clairement, c'est un constat, il y a énormément d'efforts qui sont faits. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on est dans une noire de communication, même si c'est pas du tout pour critiquer ce qui est fait sur le terrain, j'entends tout à fait que les élus vont sur le terrain et ce que cela approprie aussi pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe, mais il me semble que quand même, et ça je rejoins aussi peut-être l'intervention de Florian, c'est que et on voit bien depuis que La République en Marche à la majorité, il y a quand même des gens de la société civile qui ne sont pas politiques de métier, et c'est aussi pour ça qu'ils sont là, mais du coup, qui se heurtent à des choses très concrètes, c'est-à-dire faire de la politique, en fait, et quand même comprendre les rouages de la politique, les stratégies partisanes, les questions d'alliance, tout ce petit jeu politique. Alors, je pense à ça, alors désolée vraiment, parce que je suis un peu à fond série politique en ce moment, et je suis en train de mater l'original House of Cards de la BBC, et on voit bien que politique, c'est aussi un métier, et le fait que des gens soient... Ils savent, en fait. Ils savent que de faire de la politique, c'est un métier. Ils savent qu'il y a des rouages. Ils savent qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors oui, à chaque fois qu'on va faire de la transparence, on va avoir quelqu'un qui va dire « Ah bah oui, ça, c'est les chiffres qui communiquent, mais ils ne communiquent pas. Il y en a d'autres qui ne communiquent pas. » Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a une caisse de résonance de tout ça. Et je reviens sur un peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a donc effectivement une défiance, peut-être un manque de confiance carrément dans le politique. Mais à côté, on a tout ce système qui s'est organisé sur les réseaux sociaux en particulier, qui font émerger des voix anti-système aujourd'hui, Et ça se traduit, on le voit dans certains médias hein, qui se sont un petit peu appropriés aussi certaines de ces voix-là. Et est-ce que ça peut, alors la question c'est, est-ce que ça peut se traduire par des candidats anti-système ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si vous avez vu la série Baron Noir, mais on a quand même un candidat anti-système qui a émergé sur des questions un peu santé, sanitaire. C'est quand même difficile de ne pas faire le parallèle avec certaines voix anti-système pendant la crise sanitaire. C'est difficile de ne pas faire le parallèle aussi avec le mouvement Gilets jaunes. Qui est engagé, c'est un mouvement politique, être gilet jaune finalement, c'est faire de la politique, c'est s'opposer au gouvernement, c'est poser des questions, exiger des réponses. Ils ont fait un cahier de doléances par exemple, où sont passées ces doléances? Il y a eu un grand débat avec des rencontres, etc. Et qu'est-ce qui ressort de tout ça? Donc il y a des vraies questions auxquelles les gens attendent des réponses, et je pense que tant que ces réponses ne sont pas clairement énoncées, avec peut-être des choses contradictoires qui peuvent en émerger, les gens n'auront pas confiance dans le politique. Et moi, ce que je trouve un peu flippant, on va dire, c'est vrai que quand on voit que finalement les gens sont extrêmement engagés sur les réseaux sociaux, eux ont l'impression de perdre la politique sur les réseaux sociaux, finalement. C'est-à-dire de répondre à un tweet, d'aller liker un truc sur YouTube, de quelqu'un qui parle bien, qui va dire des choses qui sont un peu vraies, mais aussi un peu complotistes. Hein. Ils ont l'impression de faire de la politique. Et s'ils font ça, est-ce qu'ils s'engagent par ailleurs dans des projets qui sont existants, plus traditionnels, des choses auxquelles ils ne croient pas, ils ne croient plus. Et ça, je trouve que c'est un peu… ouais, ça pose vraiment question, surtout quand on sait qu'il y a énormément d'abstention en France aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Léa.
Si. En tout cas, bon, l'objectif, ce n'était pas d'avoir une réponse très précise, mais d'en discuter. Donc oui, tu as répondu à ma question. Merci beaucoup. Florian, tu veux réagir ?
Ce que je trouve assez intéressant, c'est effectivement, on en parlera peut-être tout à l'heure parce que c'était l'objet d'autres choses que je voulais dire, mais c'est en fait dans vos deux discours, on parle beaucoup de la jeunesse, on parle beaucoup des jeunes. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup des jeunes, mais moi, je ne sais pas ce que c'est un jeune en fait. Je suis désolée, hein, mais moi, j'ai 30 ans, je me sens jeune. Personnellement, et je me sens pas du tout concernée par tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait pour les jeunes, en fait. Pourtant, bon, a priori, je suis plutôt à la page, mais ça me parle pas, quoi. Donc, du coup, je sais pas à qui on s'adresse, en fait. Je sais pas à qui on s'adresse quand on dit les jeunes s'engagent pas en politique. Je suis d'accord, Cléa, quand tu dis que tout le monde fait de la politique sur les réseaux sociaux, mais est-ce que les gens s'engagent? Non, on le voit bien, malheureusement, les syndicats aujourd'hui, c'est moins de 7% en France. La volonté de s'investir est de moins en moins palpable, et pour autant, on voit quand même sur les réseaux une volonté quand même de s'investir de plus en plus et de s'implanter de plus en plus. Aujourd'hui, ce que tu disais, Valérie, je l'ai vu aussi au Parlement, alors à mon échelle, mais je l'ai vu comme toi au Parlement, c'est-à-dire qu'on a une espèce de mondialisation, au moins d'européanisation, qui fait que les politiques publiques globalement et cette question de défiance-confiance, c'est homogénéisé dans les territoires, dans les pays européens. C'est-à-dire que ce que connaît la France, c'est quelque chose que connaît l'Allemagne, c'est quelque chose que connaît l'Espagne, etc. Bon, ok. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment avoir besoin de recentrer les gens et de les réancrer dans une réalité. Et je pense que aujourd'hui, c'est important, et c'est aussi ce qu'ils recherchent ou ce qu'ils disent quand on dit que le premier pouvoir en lequel j'ai confiance, c'est le maire. Qu'est-ce qui est plus ancré qu'un maire ? La politique européenne, l'Union européenne... Moi, je fais plutôt partie de ces gens pour l'Europe, qui a travaillé à l'Europe, mais qui est pour l'Europe. Donc, j'étais, entre guillemets, du bon côté de la barrière, si je puis dire. Mais c'était plus facile pour moi, en tout cas. C'est plus facile de travailler à l'Union européenne quand on y croit. Mais effectivement, c'est ce grand chapeau qui infuse un petit peu partout. L'Europe est partout. L'Union européenne est partout aujourd'hui. Malgré tout, on a ce problème de proximité. Quand j'ai un problème dans ma rue, la personne que je vais voir, même si je n'ai absolument aucune connaissance de qui gère véritablement la rue, en tout cas, je vais voir mon maire. Et je pense que les gens ont ce besoin d'ancrage territorial. Je pense que les gens ont un lien affectif à leur territoire, même quand ils partent à l'autre bout du monde. On voit bien qu'on a des groupes aux États-Unis, les Bretons à New York, les Corses à Londres, tout ça. Bon, ok. Donc, on a quand même ce lien affectif au territoire qui est important. Et Je pense qu'en parvenant à recréer ce lien de proximité avec le citoyen, quel qu'il soit engagé, pas engagé, qu'il soit actif, pas actif, qu'il soit concerné par le problème de ma rue ou pas le problème de ma rue, fera qu'on aura une plus grande...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On améliorera la confiance, en tout cas. Et après, il y a une autre chose que tu disais, Cléa, sur les fameux cahiers de doléances et sur le débat. Je suis désolée, mais nous, on a galéré après le débat national. Parce qu'effectivement, quand on fait de la concerte et qu'en fait, on se retrouve avec des gens qui nous disent « Non, mais vous êtes bien gentils, mais les fameux cahiers du débat national, c'est devenu quoi ? Et avec vous, ça deviendra quoi ?» Ben, c'est exactement le problème. Et nous, on passe notre temps à réexpliquer. Alors, on cadre la concertation dans tous nos contextes, mais on explique, voilà, alors, la concertation, c'est ça et ça. Il y a des variants et des invariants, des choses sur lesquelles vous pouvez intervenir et des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas intervenir parce que ce n'est pas de votre ressort, voire ce n'est pas de mon ressort. Et si, je pense quand même que si on explique à tous le cadre des choses, si on contextualise tout le temps, si on donne les limites d'un exercice, les gens vont s'investir. Je ne peux pas, à mon sens, je ne peux pas faire une concertation, par exemple, sur... on fait des choses très, très précises, comme la circulation d'une route sur une rue, par exemple, à double sens, à sens unique, etc. Ça peut paraître bateau, mais de la double circulation ou de la circulation unique dépendent énormément de choses. Donc, quand je dis à quelqu'un « tu viens pour parler de ça », je lui précise bien « tu viens pas pour parler de « est-ce que tu veux te faire vacciner contre le Covid ?» On vient pour parler de la rue. Point. Et ben, les gens sont tout à fait capables de l'entendre. Et là, ils sont experts. On les repositionne sur leur terrain d'expertise et là où ils ont toute la possibilité de s'exprimer. Et je pense, par contre, que les gens n'attendent que ça et n'ont besoin que de ça. Qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on mette en place ce qu'ils demandent, tout en ayant évidemment précisé avant si c'était possible ou si ce n'était pas possible. Le problème, c'est que ces cahiers, ils n'ont pas disparu. Ils sont, je pense, toujours en traitement, parce qu'il y a eu un nombre d'interventions assez impressionnantes, qui montrent d'ailleurs que les gens ont envie de participer. Alors, c'est quand même assez impressionnant de voir toute cette population que les débats ont fait déplacer, quand même. Malheureusement, ce qu'il y a eu comme problème, c'est la concrétisation. C'est devenu quoi ? Et si on avait juste dit « c'est toujours en traitement » ou si on avait montré une sorte de « work in progress » en disant « voilà, aujourd'hui, on en est à tant de traitements, il en ressort ça. Aujourd'hui, on en est à... » Eh bien, je pense que les gens seraient un petit peu moins défiants.
Ouais, c'est aussi très intéressant ce que tu dis. Vous dites plein de choses tellement intéressantes. Je fais j'ajoute une petite chose, une petite digression, pardon, mais qui est en rapport avec ce que tu viens de dire. Il y a une association qui s'appelle « Rendez les doléances ». Qui s'est constitué justement pour que ces fameux cahiers de doléances soient pris en considération et qu'ils soient numérisés, notamment, pour que les gens puissent y avoir accès. Valérie, je te donne la parole et je te laisse conclure sur ce thème, si ça ne te dérange pas.
Non, moi, je fais partie de ceux qui pensent que le discours de vérité est un discours nécessaire et indispensable et efficace. C'est-à-dire que, comme l'a dit Florian, les gens, les citoyens, sont en capacité d'entendre. Il faut arrêter de dire que, ou de penser que parce qu'on est élu ou acteur public, il faut arrêter de penser que si on dit non, on va être mal aimé. Au contraire, moi, dans mon quotidien, je vois des gens à qui je dis non, ça n'est pas possible, pour telle et telle raison, il faut expliquer. Les gens, ils comprennent qu'on leur tient un discours de vérité et ils apprécient ça. Alors pour moi, c'est le béaba de la politique et de l'engagement politique. Après, bien sûr, il faut toujours y mettre les formes. Ça, je pense qu'on peut tout dire, mais en y mettant les formes. Et les citoyens ont beaucoup à apporter aux politiques. Enfin, je veux dire, moi, en tant que députée européenne, je ne suis rien sans les citoyens, sans ces citoyens qui me font des retours sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas dans leur quotidien. Après, sur l'efficacité de l'action publique, je crois, et ça a été dit, je crois, par Florian Rossi, Les citoyens, ils s'en fichent de savoir si c'est la commune, l'interco, l'aglo, le conseil départemental, le conseil régional, peu importe. Ce qui importe, ce n'est pas la coquille, ce n'est pas quelle administration, ce n'est pas quelle structure politique, c'est mon service public qui est assumé en qualité, en proximité. Et ça, c'est l'essentiel. Et je crois qu'on a un gros travail aussi. Moi, c'est l'une de mes marottes sur le guichet unique aussi pour les porteurs de projets, typiquement, pour faciliter la vie des citoyens, pour faciliter la vie des entrepreneurs, pour qu'ils puissent se tourner vers un guichet unique qui leur permettra de trouver réponse à toutes leurs questions de manière assez facile. Donc là, il y a des réflexions qui sont en cours, c'est pas facile à mettre, mais les maisons France Service, par exemple, ça a été un élément de réponse, je crois, utile pour les citoyens. Et puis, à l'incarnation. Alors oui, le maire, c'est l'élu de proximité. On dit souvent qu'il est à portée de baffe, il est à portée d'engueulade, c'est vrai. Moi, j'essaie à mon niveau d'incarner au maximum l'Europe et je pense que chacun, on doit s'inscrire dans les territoires parce que oui, l'Europe, c'est loin. Oui, l'Europe, c'est un gros machin. On ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Eh bien, il faut qu'on décloisonne et qu'on explique ce qui se passe à l'Europe. Et pour moi, le fait d'être présente sur le terrain, d'aller visiter des entreprises, d'aller à des inaugurations, ce n'est pas que symbolique. C'est un vrai lien qu'il faut construire avec les citoyens et les acteurs de terrain.
Ouais, belle conclusion, en effet. Merci beaucoup, Valérie. C'était bien de conclure comme ça. On va passer à vos actus, si ça vous convient. On va commencer avec toi, Floriane. Quelle est l'actualité que tu voulais partager avec nous cette semaine ?
C'est pas vraiment une actualité, mais c'est je voulais pas m'auto-spoiler, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de la jeunesse. Je ne sais pas si vous avez vu la plateforme lancée par Rachida Dati, La France vous appartient, qui est une plateforme à destination des jeunes, qui est une plateforme de collaborative, en fait, où les jeunes sont censés aller mettre leurs avis et leurs propositions pour la France de demain. Alors, si je loue particulièrement la démarche d'aller chercher les gens et de leur demander leur avis, j'ai toujours ce même problème de qu'est-ce qu'un jeune, ce que je disais tout à l'heure, je suis désolée, mais moi, j'ai pas 18 ans, mais j'en ai pas 72 non plus. Donc, le problème, c'est qu'on a un petit peu cette dichotomie entre le jeune et l'adulte. Oh, je considère être jeune et adulte, je suis désolée. Mais voilà, donc il y a quand même effectivement, notamment Jean Viard qui avait écrit là-dessus et qui disait que le problème, c'est que être adulte, en fait, c'est accepter d'être dans une situation, en gros, en mouvance permanente. C'est-à-dire qu'effectivement, être adulte, contrairement à ce qu'on pense, à ce qu'on nous dit quand on est petit, c'est pas le moment où tu es installé, où tu es dans un cadre, dans un rail, etc. C'est encore moins le cas aujourd'hui. Donc déjà, moi, j'ai ce problème-là par rapport aux politiques en général qui s'adressent aux jeunes. Aujourd'hui, quand on dit « je m'adresse aux jeunes », on en a peur, très clairement, parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de ces concertations-là. On les écoute, mais on les entend assez peu. Et on les considère plus comme un levier de contestation que comme un levier de co-construction. Et franchement, je trouve ça dommage, parce que le problème, c'est que quand on pose la question du jeune dans le domaine public, dans le domaine médiatique, dans l'espace politique, on pose aussi la question de où est le jeune dans l'espace public. Quand on fait un espace public, c'est globalement entre 15 à 20 ans pour se faire. Ça veut dire qu'en gros, un espace public qui est conçu pour moi aujourd'hui, eh ben je pourrais m'en servir quand j'aurai 50 ans. J'ose espérer que j'aurai un petit peu évolué quand j'aurai 50 ans, et que du coup, cet espace public ne correspondra plus forcément à ce que je veux aujourd'hui. Par contre, l'objectif, c'est que ce à quoi j'ai pensé aujourd'hui correspond au jeune qui a aujourd'hui du coup 10 ans. Et je pense que le problème, c'est qu'on a eu des débats de conflit de classe, conflit de génération, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a un débat où tout se mélange en fait. On a des conflits de génération et de classe. Pour autant, je pense que quelqu'un qui a 30 ans peut se retrouver avec quelqu'un, enfin peut avoir les mêmes centres d'intérêt que quelqu'un qui en a 50. Et peut avoir la même vision de l'avenir. Et ce n'est pas pour ça que la personne de 50 ans ou la personne de 30 ans aura une mauvaise vision de l'avenir. Mais on peut se retrouver. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, notamment par les... Je reviens là-dessus, sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout se vaut, rien ne se vaut. Donc, je pense que plutôt que de parler à des jeunes, je pense qu'on doit parler à des générations. Et plutôt que de dire, aujourd'hui, on fait une politique pour les vieux, je suis désolée, mais c'est ça quand même, une politique pour les vieux, une politique pour les jeunes, une politique pour les cadres, une politique pour les actifs... Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de trouver un intérêt général commun. Et je pense qu'on oublie ça quand on parle des âges. Je pense qu'on oublie ça quand on parle des classes. Aujourd'hui, je suis autant intéressée par ce qui va m'arriver à moi personnellement dans 20 ans que ce qui se passe aujourd'hui pour quelqu'un qui a 50 ans. Et je pense qu'on gagnerait en efficacité, en tout cas les politiques publiques gagneraient en efficacité, à penser beaucoup plus intérêt général commun que intérêt particulier d'une caste, en fait. Et je pense que quand on parle, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, je crois que c'est la clause impact jeunesse. C'est-à-dire que quand il y a une politique publique qui se met en place, quelles conséquences ça va avoir sur la jeunesse ? Non, c'est quel impact ça va avoir sur la société dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, je suis jeune, mais la loi que vous allez prendre aujourd'hui, que vous allez voter aujourd'hui, elle aura pour moi un impact dans 20 ans, même si j'ai plus 30 ans. Donc, du coup, je pense que ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est ça, c'est cette question de génération. Et justement, qu'on arrête de parler de jeunes... J'aimerais qu'on parle d'une génération, et ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur est-ce que les jeunes s'engagent ou est-ce que les gens s'engagent. J'aimerais qu'on parle plutôt à celle qu'on peut appeler la génération agissante. Et là, on verra que quand on parle de génération agissante, on parle à beaucoup plus de gens et on parle surtout à ceux qui vont s'engager et à ceux qui vont prendre leurs responsabilités. Parce que ce n'est pas le tout de s'engager. Le tout, c'est la question, c'est aussi de savoir qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que le projet que tu as proposé soit pérenne. Ce n'est pas le tout d'aller sur une plateforme et de dire « je pense qu'il faut un jardin partagé en bas de chez moi ». Ok, super. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour que ce jardin partagé vive en fait ? Comment tu vas l'entretenir ? Comment tu vas mobiliser des gens pour qu'ils s'intéressent, etc. Donc, je veux pas être trop longue, je suis désolée, mais je pense qu'on gagnerait en tout cas en efficacité des politiques publiques, à mon sens, à parler à cette, je vais le redire, mais à cette génération agissante qui est en fait au cœur de toutes les typologies de la société.
Merci Florian, c'était très intéressant. Cléa, tu voulais nous parler de quoi, toi ?
Alors, moi, j'ai une petite actualité qui est en lien avec mon média de Conversation France et qui s'adresse à tout le monde, donc toute génération confondue, à Florian. C'est une newsletter spéciale qui s'appelle « Les couleurs du racisme » qu'on a montée avec ma collègue Sonia Zanad, qui, justement, je fais un peu le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, qui permet de mettre des définitions, des termes, de décrypter des mécanismes racistes, des préjugés, des choses qui sont parfois de l'ordre du tacite ou de l'indicible et qui concernent tout le monde. L'idée, ce n'est pas du tout d'aller taper sur le dos d'une classe sociale ou d'une génération ou d'une communauté en particulier. C'est pour que tout le monde puisse s'approprier un petit peu certains de ces mécanismes-là et voir aussi ce qui existe, essayer de comprendre aussi des pistes. D'ailleurs, ça peut être des pistes de lecture. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, dans l'édition d'aujourd'hui, on a une autrice qui s'appelle Evia Maenga qui a travaillé sur la façon dont le racisme est devenu un objet politique dans le cinéma, avec, on le voit aujourd'hui, hein, des actrices et des acteurs qui sont très engagés. Et on a aussi un très beau podcast sur la façon de relire Les Hauts de Hurlevent avec Maryse Condé, qui va nous donner un autre regard sur la question des préjugés raciaux en littérature. Donc l'idée, c'est aussi de faire découvrir des auteurs et donc de prendre un peu de hauteur en fait sur ces questions-là. Donc je vous invite à vous abonner si ça vous intéresse et surtout j'aimerais on a le projet de le développer en sorte de webinaire par la suite. Donc, voilà, donc je voulais le partager avec vous.
C'est super intéressant aussi. On peut s'abonner où du coup, Cléa ?
Alors, on peut s'abonner sur le site de Conversation pour s'abonner à la newsletter, tout simplement. Okay. Vous avez aussi les liens et puis sur les plateformes de podcast aussi.
Super, merci beaucoup. Et enfin, Valérie, à toi, qu'est-ce que tu voulais, de quoi voulais-tu parler ?
Pas d'une actu, j'avais envie de valoriser une initiative, une femme en l'occurrence, et je pense que ça fait lien avec le sujet précédent parce que pour moi, rétablir de la confiance ou tisser de la confiance, c'est aussi valoriser des initiatives et des personnalités et des talents. Et je voulais vous parler d'une femme qui est mayonnaise comme moi, d'une femme qui est entrepreneur et qui a mis son expérience personnelle douloureuse au service des autres. Cette femme, elle s'appelle Mélanie Perron. Elle a été patiente en proie à la douleur. Elle a aussi eu elle a beaucoup souffert et elle a aussi été aidante, son compagnon souffrant d'une maladie à laquelle il a succombé malheureusement. Et elle a vu combien il a souffert. Elle avait ses propres souffrances, ses propres douleurs. Et puis la douleur, la souffrance de son compagnon. Les médecins, bien sûr, ont appliqué des protocoles classiques, mais il n'y avait rien qui répondait suffisamment à cette douleur. Et Mélanie, elle a cherché à lui apporter du bon temps, du soulagement. Et la musique, par exemple, avait toute sa place. Et un jour, c'était à l'époque où Benabar faisait un carton avec sa chanson L'effet papillon, et Mélanie, elle a eu le culot de le solliciter. Et quelques jours après, Benabar était dans la chambre d'hôpital de son compagnon et lui chantait L'effet papillon. Et en fait, donc Benabar est venu et il a fait rayonner tout le service. Et pendant plusieurs jours, on ne parlait plus de maladie dans ce service, mais on parlait de Benabar et de cette expérience positive. Et en fait, de cette expérience personnelle douloureuse, Mélanie a créé l'effet papillon, qui est une entreprise de santé dont l'objectif est d'améliorer la prise en charge de la douleur et de l'anxiété des patients grâce à des solutions qui sont innovantes et non médicamenteuses. Donc concrètement, c'est des soins, c'est des spectacles à l'hôpital et c'est un dispositif de réalité virtuelle qui s'appelle Bliss. Donc Bliss, c'est un casque qui diffuse des images, des sons et qui représente un monde imaginaire et qui permet en fait aux patients de s'évader et d'atténuer la douleur et l'anxiété. Donc le dispositif fait l'objet d'études cliniques de haut niveau qui sont chargées de démontrer son efficacité et je crois que les résultats sont plutôt encourageants. Donc je voulais en parler parce que c'est une histoire qui me touche, parce que c'est un dispositif innovant. Parce que aussi c'est la démonstration d'une résilience. Comment on met son histoire personnelle au service des autres, comment on met son histoire personnelle avec ce qu'elle a de tragique au service des autres, comment on accompagne les autres, et puis ce nouveau dispositif offert aux patients qui pourra changer nos vies aussi à nous tous si jamais on a besoin d'être opéré ou d'avoir une anesthésie par exemple. Donc c'est pour moi une belle rencontre, c'est une belle initiative. Mélanie, c'est une énergie folle et je voulais saluer cet engagement de Mélanie Perron qui me tient à cœur.
Merci beaucoup Valérie, c'est une très très belle histoire, en effet. Je vous remercie beaucoup toutes les trois, merci d'avoir participé à ce 16e épisode de Popol, j'espère vous revoir bientôt. J'en profite pour rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que pour être un podcast cool aujourd'hui, il nous faut des étoiles sur iTunes, donc merci de nous mettre des étoiles dans tous les sens.